C'est en juin dernier qu'est tombée la nouvelle, à savoir que Guy Carbonneau, l'ancien capitaine des Canadiens de Montréal, qui a gagné deux coupes avec l'équipe, qui a gagné une autre coupe avec les Stars de Dallas par la suite, allait être intronisé au Panthéon de la renommée du hockey. Une cérémonie qui aura lieu le lundi 18 novembre prochain. Et je vous annonce d'ailleurs que nous serons là, l'équipe des amateurs de sport, en direct pour diffuser une émission spéciale à cette occasion. Et on a le plaisir aujourd'hui, quelques semaines avant ce grand moment, d'accueillir à l'émission nul autre que Carbonneau lui-même, Guy Carbonneau, qui est au bout du fil. Salut, Guy.
Salut, Mario.
Guy, je tenais à ce qu'on puisse se parler. On s'est rencontrés lors du lancement du livre de Serge Chavard, il n'y a pas longtemps. Et dès lors, je t'ai dit que j'avais envie de te parler avant l'intronisation, parce que je pense que cette journée-là va être spéciale. Tu dois déjà visualiser ce que ça va représenter pour toi et tu dois te donner des frissons toi-même, là.
Ben, on essaie de visualiser. J'ai la chance de parler quand même avec certaines personnes qui ont passé par là, puis tout le monde me dit que ça va être une fin de semaine extraordinaire, mais comme tu sais, là, lorsque tu organises quelque chose comme ça, il y a beaucoup de logistique, il y a beaucoup de nervosité qui flotte, puis même si j'ai une idée comment les choses vont se passer, tant qu'on sera pas rendu mardi, le mardi suivant, je vais stresser un peu.
Faut dire que t'es peut-être plus habitué avec la nervosité qui précédait les grands matchs que la nervosité qui précède l'intronisation, parce que ça, tu le vis juste une fois, Guy.
Ah, définitivement. Puis comme on dit, tu sais, souvent, puis j'ai dit à certaines personnes, mon rêve, lorsque j'étais un petit garçon à cette île, c'était d'un jour de jouer dans la Ligue nationale, un peu comme tout le monde. Là, on joue dans la rue, on joue sur la glace, dehors. En rêvant un jour de jouer dans la Ligue nationale, mais il y a personne qui commence à jouer au hockey puis il rêve de rentrer au temple de la renommée. Ça fait que c'est quelque chose de spécial. Ça fait que j'essaie d'en profiter, j'essaie de prendre ça de la bonne façon, mais comme je dis là tantôt, tant que ça sera pas passé, là, ça va être c'est stressant.
Carbo, on dit qu'une image vaut mille mots, mais je pense aussi qu'un mot vaut mille images. Amène-nous donc à cette île, dans ta jeunesse. Raconte-nous, c'était quoi ta vie? C'est quoi les flashs qui reviennent le plus souvent dans ta tête et dans ton cœur quand tu repenses à ces années-là?
Ben, c'est sûr que dans ces années-là, à cette île, les hivers étaient longs. Je me rappelle, moi, de mon quartier. Là. C'était un quartier qui bougeait beaucoup, où il y avait beaucoup d'enfants de la même âge que moi, tu sais, un petit peu plus jeune, mais un petit peu plus vieux. Puis on avait beaucoup de pères qui construisaient des glaces à l'extérieur. On avait toujours, si c'était pas l'hiver, on jouait au baseball l'été. Tu sais, je veux dire, pour moi, ça a été toujours de ça. C'est de faire du sport en équipe, d'être actif tout le temps. Une journée, on jouait sur un voisin. L'autre journée, c'était sur l'autre voisin. C'est comme ça que j'ai passé mon enfance.
Détachais-tu tes patins quand tu rentrais dîner pour que ça dégèle d'un patin?
je peux te dire que si tu parlais à ma mère, il y avait des fois qu'on passait le dîner.
c'est le bonheur quand tu repenses à ces années-là, Guy?
Ah, ben mon Dieu, c'était le bonheur. Je veux dire, j'ai eu une belle enfance. J'ai été vraiment chanceux. J'ai été choyé. Nous, on était cinq chez nous. Mon père travaillait fort. Ma mère était à la maison, puis elle s'occupait de nous autres. Puis j'ai été chanceux. On n'a jamais manqué de rien. Lorsqu'on avait besoin d'un bâton ou une pièce d'équipement, mon père était toujours là, prêt à l'acheter. Tu sais, je veux dire, on n'était pas super super riche, mais comme je te dis, on était super bien. Puis tu sais, on avait tout ce qu'on avait besoin, on l'avait alentour de nous. Là.
Penses-tu que le fait d'avoir grandi à cette île y est pour quelque chose dans le succès de ta carrière, Guy?
Je ne sais pas. C'est sûr que je pense que tu sais, partout où tu vis, je pense que tu prends de l'expérience. Tu sais, comme je l'ai dit, cette île n'est pas à la porte de Montréal. Lorsque nous, on jouait des tournois, il fallait aller. Le plus proche était probablement Baie-Comeau, Forestville. Des fois, on allait jouer à Schefferville. C'était 11 ou 12 heures de train. La Bador City, c'était la même chose. On était un endroit assez serré. Tout le monde se soutenait. Tout le monde s'entraidait. Lorsqu'il y avait des tournois, ma mère travaillait au tournoi. Les parents des autres joueurs travaillaient dans les tournois. On s'arrangeait comme ça. Fait que c'est sûr et certain qu'au fil des ans, on supportait, puis on se poussait toute la gang. J'ai eu la chance de poursuivre, mais tu sais, je veux dire, j'avais certainement un certain talent.
Évidemment.
Et la ville de Sept-Îles, tu sais, le fait d'être entouré de bonnes personnes alentour a certainement aidé.
Quand tu repenses à tout ça, bon, c'est drôle parce qu'on voit les images sans connaître les visages de ceux dont tu nous parles. Ta mère va être présente lors de la cérémonie du 18 novembre. Ça doit te faire quelque chose qu'elle puisse être encore assez en santé pour assister à ce moment unique-là, Guy?
Ah, bien, effectivement. Je veux dire, c'est malheureux parce que mon père est décédé en 1999. Mais ma mère est, comme tu l'as dit, ma mère est en santé. J'ai deux de mes frères qui vont être présents aussi. Tu sais, je veux dire, ma mère a fait beaucoup pour moi. C'était elle qui on était quatre garçons. Fait que, tu sais, il y avait pas juste moi qui jouais au hockey. Elle m'a fait des voyages de la maison à la patinoire, puis sur la route, aller à Baie-Comeau, aller à Forestville. Fait que, tu sais, elle était très, très, très présente dans ma vie de jeunesse puis de hockeyeur. Mes frères puis ma sœur, même s'ils n'ont pas eu peut-être un impact, indirectement, ils ont toujours respecté ce que j'aimais faire, puis ils m'ont certainement aidé. Ça fait que, tu sais, je veux dire, ils ont tous fait partie du succès que j'ai connu.
Ton père a donc été témoin de la majeure partie de ta carrière. Il a peut-être juste manqué ta dernière saison, en quelque sorte.
Oui. Mon père, mais disons, mon père était plus un homme d'affaires qu'un sportif.
Ah oui?
Il aimait pas voyager trop. Il aimait pas. C'était plus ma mère. Ma mère venait souvent à Montréal. Est venue souvent à Saint-Louis, à Dallas. Mon père aimait moins ça. Il aimait plus travailler. Mais je veux dire, c'est sûr qu'il se tenait au courant. Il était là en 86 puis en 93 lorsqu'on a gagné la Coupe Stanley. Malheureusement, en 99, il est mort pendant les séries éliminatoires lorsqu'on jouait contre Saint-Louis. Alors, c'est sûr et certain que... Mais c'est une personne qui m'a soutenu, qui a toujours supporté, comme j'ai dit tantôt.
J'imagine. Il est pas tard dans ta vie quand le moment est venu de partir, de faire tes valises pour ta carrière de hockeyeur, alors que tu t'en vas t'aligner avec les Saguenay, Chicoutimi. T'as à peine 16 ans, Guy, à ce moment-là. On est en 1976.
Ouais. Ouais, j'avais à peine 16 ans.
C'était-tu gros de partir de la maison?
Ben oui, tu sais, je veux dire, c'est sûr je m'en allais pas au bout du monde, là, mais t'as quand même... Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup mieux préparés à ce genre de situation-là. Ils voyagent beaucoup plus, sont plus impliqués dans ces choses. Ils font des tournois un petit peu partout à travers la province, à travers le pays, puis même les États-Unis. Moi, dans mon temps, comme j'ai dit tantôt, là, tu sais, sortir du Québec, c'était rare, là. Encore moins aller jouer des tournois aux États-Unis ou en Europe. Alors, pour moi, tu sais, c'était quelque chose qui était, tu sais, stressant. Mais le fait, comme je dis, le fait de pas être allé trop loin, ça a apaisé les choses un peu.
Ouais, je comprends. Te souviens-tu de t'être bien ennuyé de chez vous dans ces années-là? Ou bien t'as rencontré celle qui allait devenir ta future épouse assez vite pour pas trop t'ennuyer?
Si tu demandes aux gens qui me connaissent bien, je suis pas un ennuyeux de nature.
OK.
J'ai assez de facilité à me divertir, puis puis moi, entouré de joueurs d'hockey ou de... que ce soit n'importe quoi, je suis très, très bien dans ce style, dans ces affaires-là. Ça fait que, tu sais, je suis arrivé à Chicoutimi, j'ai appris, tu t'apprends à connaître d'autres personnes, mais la chose qui était la plus importante, c'était que j'étais à travers des joueurs de hockey qui espéraient faire la même chose que moi. Ça fait que c'était une transition quand même assez facile.
Guy, si tu me permets, on doit s'arrêter le temps de quelques messages, ensuite de quoi on va poursuivre l'entretien et je vais t'inviter à nous parler de tes plus beaux moments en carrière et de tes rivaux les plus difficiles à couvrir également. À tout de suite tout le monde. De retour avec notre invité qui sera intronisé au Panthéon du hockey le 18 novembre prochain à Toronto, Guy Carbonneau. Guy, 1318 matchs en carrière en saison régulière. Alors, je compterai pas les matchs préparatoires, Carbo, parce qu'il y en a une coupe à chaque année. 231 matchs de série, ça fait 1549 parties. J'imagine que si je te pose la question, peut-être même avant, lors de l'année de ton repêchage, le plus beau moment que tu as vécu dans le hockey, ça doit se bousculer dans tes idées, puis il y en a peut-être quelques-uns, mais es-tu capable d'en placer un au top ou les finalistes pour le titre de plus beau moment dans ta carrière de hockey, Carbo? Tu sais, je pense des fois le premier but dans la Ligue nationale, le jour du repêchage, la Coupe Stanley, mais je t'écoute.
Ben, c'est toujours les soirs de première ou les journées, les jours de première. Je veux dire, tu sais, la seule chose, c'est que moi, quand j'ai été repêché, j'étais pas à l'aréna. J'étais à Chicoutimi sur le terrain du golf. On m'a appelé pour me dire que je venais d'être repêché par le Canadien de Montréal. Fait que c'est sûr et certain que, tu sais, il y a beaucoup d'émotions puis il y a beaucoup de fierté. Tu sais, j'étais pas un Sidney Crosby. T'sais, à part le premier choix repêchage de temps en temps, les autres, tu sais, t'as une chance d'être repêché. Tu sais, aujourd'hui, avec toutes les statistiques, avec tout ce qui se passe à travers les journaux, les télévisions, la radio, t'as une bonne idée que t'as une chance de te faire pêcher. Dans mon temps, c'était en l'air pas mal. Il y a certainement ce moment-là, comme tu dis, le premier match, le premier point.
Avec qui t'as joué? Te souviens-tu ton premier match avec qui t'embarques sur la glace? Te souviens-tu t'as quitté tes alliés?
Je pense que à mon premier match, c'était contre Vancouver. Contre les Canucks de Vancouver. J'avais eu une assist. Puis dans mon deuxième match, j'avais joué contre les Nordiques, puis j'avais eu mon premier but. Contre les Nordiques, oui. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est des moments que tu essaies de pas oublier, mais c'est sûr qu'après ça, ben là, tu sais, la première Coupe Stanley, parce que c'est un rêve de jeune garçon, là, on a tous joué dans la rue puis compté le but en supplémentaire pour gagner la Coupe Stanley.
J'imagine, mais toi, tu l'as vécu pour vrai et t'as pu concrétiser tout ça. C'était quoi aussi? Parce que moi, je me rappelle, je suis, bon, quoi, 6-7 ans plus jeune que toi, Carbo, mais donc, je regardais les yeux grands ouverts, ceux qui t'ont précédé un peu, puis que l'époque où t'es arrivé. C'est une époque spéciale quand t'arrives, parce que dans le fond, les premiers pas que tu fais avec le Canadien, tu joues deux matchs à ton premier appel, puis ensuite, tu t'établis l'année suivante. Ouais. Mais t'arrives alors que la dynastie vient de s'éteindre, là, mais on est encore dans la pente.
Moi, je le dis tout le temps, puis j'étais arrivé dans un temps extraordinaire avec le Canadien de Montréal. Comme tu l'as dit, il venait de gagner 4 Coupes Stanley l'année que je me suis fait repêcher. Je me suis fait repêcher en 79. Puis là, ben tu commences ton premier camp d'entraînement. Comme je l'ai dit, là, à gauche, j'avais Steve Schott, puis à droite, j'avais Guy Lafleur. t'as pas le choix, tu gèles, là, t'sais.
J'imagine.
Il était pas dans leur prime, mais il venait encore de gagner 4 Coupes Stanley, là. C'est sûr que c'était des moments extraordinaires. Puis en plus de ça, mais veux pas, ceux qui étaient pas habillés étaient aussi grands que ceux qui étaient habillés, là. Jean Béliveau, Maurice Richard, André Richard, Yvan Cournoyer. C'est tous ces joueurs-là qui se tenaient dans l'entourage de l'équipe, là, étaient présents, à chaque match, à chaque jour, là. Fait que, tu sais, avoir vécu là-dedans, c'était vraiment un délice.
Quand tu arrives à inoubliable souvenir pour nous tous, bien sûr, la Coupe cette année de 1986. Quand tu arrives en 1986, à ce moment-là, on s'imagine pas là qu'une couple d'années plus tard, on va être 26-27 ans sans voir les Canadiens gagner une Coupe cette année. À ce moment-là, c'est en 79, la dernière Coupe, et ça semble une éternité, là. Évidemment, ouais. 1980, 81, 82, 83, 84, puis Serge est arrivé avec un plan de 5 ans, puis 86, c'était sa dernière année comme telle, en théorie. C'était quoi d'avoir parcouru ces année-là sans coupe, puis de ramener le trophée à la maison?
Ben écoute, pour moi, c'était ma première, fait que c'est sûr et certain que tu sais, moi, je pensais pas vraiment à que c'était long, là. C'était juste d'avoir une chance de gagner la Coupe Stanley, puis ça, c'est tu sais, j'étais justement, on était au lancement du livre de Serge Savard, puis c'est ce que je dis tout le temps de Serge. Serge m'a donné la chance à chaque année qu'il était là d'être en compétition pour gagner la Coupe Stanley. T'sais, je veux dire, on n'était peut-être pas la meilleure équipe à chaque année, mais on était toujours dans le mix pour remporter la Coupe Stanley. C'était des belles années.
Tu sais, le fameux proverbe là qui est inscrit en belle grosse lettre avec les photos dans le vestiaire du Canadien, nos bras meurtris vous tendent le flambeau. Est-ce que ça saisit quand on entre dans ce vestiaire-là comme joueur au début de sa carrière? Puis c'est-tu quelque chose qui était signifiant pour toi? Je me demande si ça l'est encore, mais pour toi, t'as pris ça, en tout cas, tu sembles avoir pris ça au sérieux parce que t'as été tout un porte-étendard pour cette équipe-là pendant des années.
Ben, je pense que c'était sérieux, oui, dans mes années, parce qu'on avait, tu sais, quelqu'un. J'ose croire que c'est encore sérieux aujourd'hui. Je veux dire, c'est sûr qu'on a plus plus de joueurs qui viennent de l'Europe, des États-Unis, de l'Ouest du Canada. Si je veux dire, ils sont peut-être moins proches de l'histoire de ce qui s'est passé. T'sais, moi, je venais de le vivre. Là. Tu venais de vivre 4 Coupes Stanley. On avait encore des joueurs qui quand tu joues à côté d'un gars comme Mario Tremblay, à côté de Bob Gainey, quand tu regardes jouer des gars comme Yvon Lambert, tous ces genres de joueurs-là, le proverbe était vraiment réel dans ces années-là. Puis j'ose croire qu'aujourd'hui, lorsque tu regardes des gars comme Brendan Gallagher puis Max Domi, les jeunes, lorsqu'ils arrivent, ils doivent réaliser qu'est-ce que ça veut dire.
Guy, on peut dire que tu as sacrifié de l'offensive pour te consacrer aux missions que tes entraîneurs t'ont confiées de devenir un spécialiste de la défensive qui t'a pas empêché d'enregistrer 663 points en carrière. Quel était l'athlète, l'adversaire le plus difficile à couvrir?
Hey boy. Il y en avait plusieurs. Dans ces années-là, c'est sûr qu'il faut que tu mettes. J'avais pas la chance de jouer Wayne Gretzky 8 fois comme je jouais contre Peter Stachny. Mais des gros joueurs de centre physique, il y en avait beaucoup. Marc Messier, Peter Stachny, Kenny Linsman, Mario Lemieux, Wayne Gretzky. C'était tellement des joueurs qui étaient au-dessus de la normale. Dans des bonnes équipes aussi, là. Ça fait que c'est sûr que c'était beaucoup plus difficile à surveiller. Fallait que je travaille fort.
Quand tu te retrouvais face à face avec ces gars-là, là, j'imagine que comme couvreur attitré, tu devais un peu leur taper sur les nerfs. Est-ce que tu avais une relation avec ces gars-là sur la glace? Vous parliez-vous?
Disons que dans ces années-là où ce qu'on jouait un contre l'autre, non, il n'y avait pas de grande relation. Il faut dire que dans ces années-là, on n'avait pas la chance de rencontrer ces joueurs-là trop souvent. Là. On arrivait dans la ville, on les voyait pas, on jouait le soir, on partait le lendemain matin ou le soir tout de suite après le match. T'sais, on n'avait pas la chance de se rencontrer. Aujourd'hui, ils ont des meetings avec l'association des joueurs. Il y a des championnats du monde de moins de 16 ans, moins de 17 ans, moins de 18 ans, moins de 19 ans. Mm-hmm. Fait que, ils ont la chance de se voir un peu plus souvent que nous autres. Mais dans ces années-là, les joueurs, sans dire que c'était des ennemis, ça y sait vraiment. Là. Fait que t'avais pas, tu,
ça pas fraternisait pas, la pas ça de l'as ben,
ça fait, hein? Exact, non, pas trop, non. C'était mal vu par le coaching staff puis les autres joueurs si t'avais le malheur de fraterniser sur la patinoire, ce qui est aujourd'hui tout le monde fait là.
Guy, c'est le temps d'une autre pause et des nouvelles, mais ensuite de quoi j'aimerais ça que tu nous parles de la vie après le Canadien de Montréal. À tout de suite. De retour aux amateurs de sport avec notre invité et futur membre du Temple de la renommée du hockey, Guy Carbonneau. Carbo, le 19 août 1994, ça te sonne une cloche?
Ça, c'est la journée quand je me suis fait changer à Saint-Louis, je pense.
Exactement.
C'est la première fois que je me rappelle au mois d'août.
Oui. Ça, dans ta carrière, c'est-tu... je sais que ça a ouvert la porte à bien des choses, mais sur le coup, avais-tu l'impression que c'était la pire nouvelle que tu peux entendre?
Définitivement. Tu sais, je vais... Il n'y avait rien vraiment qui me laissait présager que... Tu sais, je veux dire... J'étais capitaine du Canadien, on avait gagné la Coupe Stanley en 93, je venais de me faire construire une maison, mes deux enfants étaient bien ici à Montréal, ma femme était bien ici à Montréal, ça faisait 12 ans qu'on était ici. Dans ces années-là, puis avec ce que je regarde, t'es là pour la vie. Là. Fait que c'est sûr et certain que ça a été un coup dur, mais comme tu l'as dit, je pense que dans tout malheur, le bonheur des fois, puis j'ai appris une autre culture, puis ça s'est bien tourné.
Ça a été un mal pour un bien, en quelque sorte, regret?
Ben, c'était mal. Ben écoute, personne ne connaît la... On ne sait pas. Là. Est-ce que je serais resté ici, on aurait peut-être gagné 2-3 autres Coupes Stanley? Est-ce que, on ne le sait pas. Patrick est encore là. On avait quand même une bonne équipe. Mais de l'autre côté, est-ce que j'aurais été capable de jouer un autre 6 ans? Je sais pas. C'est difficile à dire. Fait que, j'ai adoré les années que j'étais ici. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui étaient en place. Ça m'a pris quelques années à reprendre contact avec tous ces gens-là, mais aujourd'hui, j'ai aucun problème. Je comprends la situation dans ces années-là. Puis pour moi, ça s'est bien tourné. Ça fait que Il n'y a pas de rancune.
C'est vraiment spécial ce qui vous unit tous. À travers parfois des écueils que vous avez vécu les uns avec les autres, on dirait que ça transcende tout ça. Tu sais, avec Bob Gainey, je pense qu'il va être là à ton intronisation. Tu pourras avoir bien des raisons. Oui. J'en connais, moi, qui n'aurais jamais reparlé, peut-être, tu sais. Serge,
ben, il y a eu des moments où c'était plus difficile, c'est sûr.
Oui, hein? On oublie.
Comme un peu comme Serge. C'est ça. Comme Serge. Je veux dire, avec Serge, j'ai eu des moments difficiles. Puis c'est la beauté d'être capable de vieillir puis de prendre l'expérience. T'es capable de regarder en arrière puis de refléter un peu ce qui s'est passé puis pourquoi ça s'est passé. C'est lorsque les choses arrivent, des fois, on a tendance à pas regarder les deux côtés de la médaille. Parce que t'es pas des deux côtés de la médaille, t'es d'un côté. Alors, tu penses tout le temps que c'est toi qui as raison, mais plus la vie avance, plus les choses se savent, puis plus t'apprends à réaliser qu'il y a deux côtés de la médaille à tout, puis si à un moment donné, il faut que t'arrêtes de pleurer sur ton sort, puis de revirer la page.
Simplement. Pouvais-tu t'imaginer que ça serait la dernière Coupe Stanley remportée par une équipe canadienne en 93, Guy?
Ben, c'est difficile à on regarde ce qui se passe. Là, je veux dire, à chaque année, on semble dire ça. Ça fait quand ça faisait 10 ans. Là, quand ça a fait 7 ans ou 8 ans, je pense, c'est comme pas normal parce que dans les années 50, 50, 60, je pense qu'à tous les 7 ans, le Canadien gagnait. Après ça, c'est devenu 10 ans. Puis là, on trouvait ça extrêmement long. Puis là, c'est devenu 15 ans. Puis là, ça n'avait aucun bon sens. Puis là, c'est devenu 20 ans. Puis là, c'est rendu 25 ans. Puis c'est sûr et certain que, tu sais, ça fait toujours un velours d'être le dernier capitaine d'avoir touché la Coupe Stanley au Canada, là, mais je trouve ça long, là.
Penses-tu que le Canadien n'aurait gagné un autre? T'as touché le sujet tout à l'heure, si l'équipe avait pas été démantibulée. Puis quand vous vous retrouvez, toi, Patrick, ou peut-être même Serge, ou d'autres gars de cette époque-là, Mike King, regrettez-vous que l'équipe ait été pièce par pièce démantibulée à ce moment-là?
Ben oui, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, parce que t'apprends à... Moi, j'ai toujours dit, il faut que t'apprennes à gagner. Puis pour apprendre à gagner, il faut que tu sois capable de perdre. Puis on avait fait ça. On avait passé ces choses-là, puis... T'sais, je veux dire, à la fin de la journée, on avait quand même Patrick Roy dans le net encore. On avait de bons défenseurs. On avait des joueurs qui avaient l'expérience on avait des guerriers. Moi, j'appelle ça des guerriers. Puis on l'avait gagné, la Coupe Stanley en 93. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient de retour dans ces années-là. Fait que c'est sûr que on pense toute la même affaire. On aurait peut-être eu une chance si on avait tout été capable de garder toute sa gang ensemble.
Guy, on arrive tout près de la conclusion de l'entrevue. J'ai vu des images d'une réunion, d'une activité qui réunissait des anciens joueurs. Tu étais de la fête avec des joueurs actuels du Canadien de Montréal. C'est il y a quelques années qu'à notre antenne ici aux amateurs de sport que tu avais déclaré à un moment donné que tu sentais une espèce de mur entre les Canadiens et les anciens. Et je savais pas que ça allait faire autant de bruit. Ça avait fait la première page du journal de Montréal le lendemain. Toi non plus, probablement que tu t'en doutais pas que ça allait résonner aussi fort. On peut constater que ça semble avoir changé. Ça a peut-être pris un peu de temps. Es-tu content de l'allure des relations entre toi, le Canadien, et les anciens dans l'ensemble? En tout cas, une activité comme ça nous laisse croire que ça s'est amélioré.
Ben, je suis très content. Je pense que, tu sais, je veux dire, puis je suis certain qu'ils ont pas fait ça. Ils l'ont fait par exprès pour que la situation arrive.
Ben non.
Moi, c'était juste quelque chose que j'avais constaté. Puis, tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure en début de l'émission, je veux dire, tu sais, j'ai eu la chance d'arriver dans un temps où ce que Jean Béliveau, Maurice Richard, Henri Richard, Rival Cournoyer, tu sais, des gars qui avaient gagné la Coupe Stanley étaient alentour de nous constamment. Puis, comme j'avais parlé à Jeff et aux dirigeants, tu sais, je veux dire, puis c'est ce que j'aime. Je pense qu'il faut donner crédit au groupe du Canadien présentement qui ont réalisé ça. Puis là, ben ça fait 3 ans là, présentement qu'on fait cette petite rencontre. Puis je te dirais qu'il y a 3 ans, lorsqu'on a rencontré les joueurs, il y avait beaucoup de gêne, il y avait beaucoup de tu sais, il y avait pas. Je pense qu'il y a certains joueurs qu'on avait plus d'affinité qui jasaient là.
Oui.
C'était pas tout le monde qui jasait ensemble. L'année passée, il y en a eu un peu plus, puis cette année, mais il y en a eu encore beaucoup plus. Tu sais, je pense que là, il nous voit comme des alliés puis des joueurs, tu sais, qu'on a fait la même affaire qu'eux autres. On n'est pas sur un piédestal, on n'est pas différent d'eux autres. On a juste plus d'équipement sur le dos. Là. Enfin, là, on a les mêmes cicatrices, on passe à travers les mêmes choses. On comprend exactement qu'est-ce qu'ils ont, que ce soit les bons côtés, les mauvais côtés. Fait que d'être capable d'en jaser avec quelqu'un qui a passé à travers, je pense que ça améliore le climat, puis je suis très content qu'on en ait rendu là.
J'aime vraiment entendre ce que tu nous racontes là. Puis toi qui en plus as été coach, Guy, crois-tu à ça? T'sais, c'est une image, là, transmettre le flambeau, on fait des cérémonies avec ça, mais oui. dans réalité, on le traîne pas partout, le flambeau, ça se passe autrement, la transmission du savoir, puis de tout oui. ça, mais crois-tu que ça donne quelque chose, que tu sais, juste la progression d'une année à l'autre, puis c'est une bonne affaire, puis que à la limite, c'est intangible, c'est difficile de calculer comment ça va transpirer sa glace, mais que c'est bon pour l'organisation?
Moi, je pense que c'est bon pour l'organisation. T'sais, je veux dire, on regarde, on parlait de Jonathan Drouin, là. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé cet été? Je pense que Serge l'a réitéré là-dessus. Tu sais, lui aimait avoir beaucoup de Québécois qui passaient beaucoup de temps l'été ici à Montréal parce que tous les jours, tu rencontres des gens qui te demandent qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, ben, tu arrives au mois de septembre, là, tu te dis dans le fond de toi-même, quand tu t'entraînes, tu te dis OK, là, je suis tanné, là. Tu sais, là,
oui.
Je suis tanné. Moi, je pense que c'est un peu ce qui est arrivé de Jonathan. T'sais, il a demandé à réaliser que le talent n'était pas juste assez, qu'il fallait qu'il fasse d'autres choses. Puis je pense que plus tu rencontres des joueurs qui vont te dire c'est quoi d'être un vrai Canadien de Montréal, puis qu'est-ce que ça prend pour passer à travers, parce que c'est pas facile de gagner. Tout le monde veut gagner. Puis j'ai aucun doute que Marc Bergevin puis Jeff Molson veulent gagner la Coupe Stanley. Il n'y a personne qui s'entraîne tout l'été pour ne pas gagner la Coupe Stanley, mais tu sais, il y a un prix à payer, puis te le faire dire, puis te le réaliser, je pense que tu as déjà un grand pas de fait. Fait que moi, quand je rencontrais Jean Béliveau puis Maurice Richard, puis tu voyais les yeux lorsqu'ils parlaient justement des conquêtes de la Coupe Stanley, comment est-ce que tu voulais que moi, dans mon fort intérieur, je veux pas en gagner une.
Ah, c'est sûr que ça devait faire son effet. Puis j'essaie de me transposer, de me déguiser, ça va être dur, mais de me déguiser en petite mouche qui volait dans le vestiaire dans l'une de vos trois rencontres. Puis il y a de quoi s'inspirer pour les jeunes d'aujourd'hui. Puis il y a quelque chose qui me frappe dans ce que tu dis. Tu sais, être un vrai Canadien. Dans le temps, il y avait les frères puis la religion, puis on a mis ça de côté un petit peu, mais quelqu'un qui a vraiment porté le flambeau bien haut, qui a défendu la flanelle avec fierté, il passe à l'histoire, tu deviens un inoubliable en quelque sorte. C'est quoi ce feeling-là d'être identifié comme tel? Puis tu vas être consacré par ton intronisation, temple de la renommée, Guy, mais être un vrai Canadien, c'est quoi pour toi?
C'est la fierté. C'est peu importe où tu joues, c'est d'avoir de la fierté. T'sais, je veux dire... Qu'est-ce qu'on reprochait à Jonathan Drouin l'an passé? C'est de ne pas avoir de constance. Là, cette année, parce qu'il travaille fort, il récolte, puis là, tout le monde l'aime. Puis on veut juste... Je pense que c'est un peu ce qu'on regardait. On regardait des gars comme Maurice Richard, des gars comme Bob Gaines, des gars comme Larry Robinson, des gars comme Guy Lafleur. T'sais, même s'il avait un talent exceptionnel, il travaillait extrêmement fort. C'est tout ce qu'on demande. C'est juste d'être à ton meilleur à chaque match, puis...
Donne-toi, puis l'amour du public va être là, en quelque sorte.
Ah, mon Dieu, exactement. Puis je veux dire, tu sais, si tu regardes au fil des années, on a des joueurs qui ont joué pour le Canadien de Montréal, qui ont été des travaillants, ont été adulés.
Vraiment, vraiment.
Comparativement à d'autres villes, où ce que si tu faisais pas 120 points par année, personne ne te connaissait.
Comme un Gallagher de nos jours, là, depuis le jour qu'il a mis le chandail.
Exactement.
Hein?
Exactement. T'sais, c'est un Guy Carbonneau, un Steve Bégin, un Chris Nylund, Mike Keane. On a été adulés et respectés parce qu'on travaillait sur la patinoire.
Oui. Le bleu abionique, Mario Tremblay, incarnation aussi. Ah, il y en a de méchantes gars.
Exactement. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on veut.
Ouais. Hey, Guy, faut que je te demande ça va être drôle, mais tu sais, on a tous rêvé de vivre le genre de vie que vous avez vécu jeune sur une patinoire dehors puis de compter, mais on l'a pas vécu. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Fait que, on aime ça vous entendre en parler. Mais ouais. C'est quoi le sentiment de te sentir apprécié comme ça, qu'à toutes les fois qu'on te voit au Centre Bell pour une mise en jeu de cérémonie, c'est l'ovation automatique, c'est des Guy, c'est... Tu sais, c'est quelque chose là, d'avoir créé ce lien-là avec le public. Peut-être que Jonathan est en train de le créer, mais c'est quoi de se sentir ouais. aimé et apprécié comme ça?
Ah, ben, c'est c'est sûr que c'est un feeling extraordinaire. Je veux dire, tu sais, je jouais pas au hockey en pensant à ça. Moi, je jouais au hockey parce que je voulais gagner, puis j'aimais compétitionner en équipe. Mais tu sais, aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai accompli, puis c'est sûr que ça me donne une petite tape dans le dos à chaque fois. Ça a beaucoup plus de bons côtés. Tu sais, tout le monde dit tout le temps c'est difficile de jouer à Montréal parce que tout le monde te reconnaît. Oui, mais tu sais, ça a ses bons côtés aussi. Là. Ça a beaucoup plus de bons côtés que de non mauvais. Fait que pour moi, j'ai eu une belle histoire ici à Montréal. Ça a duré 12 ans, puis après ça, mais je suis venu coacher ici. Les gens ont toujours été extraordinaires. Puis c'est la raison pour laquelle j'aime demeurer ici.
On est tous bien contents que tu sois demeuré dans le coin. D'ailleurs, Carbo, on va faire une dernière pause. Ensuite, de quoi je veux que tu nous racontes l'appel du Temple de la renommée. De retour avec notre invité ce soir, Guy Carbonneau, pour la conclusion de cette entrevue. Guy, quand tu as eu l'appel du Temple de la renommée, est-ce que tu avais des doutes? Est-ce que quelqu'un t'avait donné des indices ou tu n'en avais aucune idée là, de ce qui allait se passer?
Bien, premièrement, c'est Lanny McDonald puis John Davidson qui font les appels. Il t'appelle pour te dire que dans une demi-heure, ton nom va sortir et ça va être l'enfer. Mais non, ça a été une belle surprise. C'est sûr que tout le monde une fois que tu es retiré 3 ans, tout le monde peut être éligible. Puis avec les réseaux de télévision, puis de radio, puis de journaux, on sait tous que la date là, que le comité se réunit pour donner la liste des personnes, des joueurs qui vont être intronisés. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours un petit stress, mais écoute, ça faisait 16 ans que j'attendais, là. Fait que c'est sûr que à chaque année, le stress diminue un peu, mais ça a été une belle surprise, puis quelque chose que je suis très, très fier.
Ben, je comprends donc. Sur une note plus légère, en terminant, Guy, écoutons ceci.
Salut Marc, ça va?
Oui. Écoute Guy, cette année pour la pub de McDo, là, c'est le Big Mac La Vedette. Un classique. Ça va prendre une légende. C'est pour ça que je vais le faire.
Pourquoi je suis là?
Campagne publicitaire de McDonald's, elle vient d'être lancée. Oui. Toi avec Marc. Donc, t'as pas été trop insulté qu'il n'y ait pas recours à la légende que tu es pour honorer le Big Mac.
Non, mais c'est la raison pour laquelle j'ai accepté le concept. Je trouvais le concept le fun. C'est un petit clin d'œil. C'est comme tu l'as dit tantôt, tu sais, il faut que tu sois capable de rire un peu de toi-même. Puis tu sais, c'était vraiment drôle. C'était une belle équipe. C'était un beau concept. On sait tous, le McDonald's c'est quand même une grosse machine. Fait que non, c'était quelque chose qui était vraiment le fun.
J'étais curieux, compte tenu de ce qu'on disait tout à l'heure là, par rapport au mur d'il y a quelques années. Puis est-ce que le tournage t'a permis d'établir une relation avec Marc ou au fil des années, vous vous êtes jasé un peu ou vraiment le tournage a permis de peut-être réchauffer un peu la relation?
Non, mais écoute, Marc est une personne occupée. Il y a un travail à faire qui l'empêche des fois de d'étaler ses idées sur la place publique. Je veux dire, je suis pas un gratteux, c'est que dans le sens que j'ai pas besoin de toutes les réponses ou je te dirais qu'on a eu du plaisir la journée du tournage. J'ai rencontré Marc à une couple d'occasions lorsque j'étais au Centre Bell. Lorsqu'on est un à côté de l'autre puis qu'on a la chance de se parler, on se parle, mais je veux dire c'est pas plus que ça. Là. Je veux dire, on se respecte de chacun de notre côté.
Jeff Monchon va être présent à l'intronisation en novembre prochain. Ça doit te faire un petit velours. Puis j'imagine des anciens coéquipiers également. Carbo, en terminant?
Oui, ben écoute, j'ai pas toute la liste encore, là, mais je sais que j'ai parlé à Jeff dernièrement. Je sais que lui va être là avec un groupe de personnes du Canadien de Montréal. Je pense que Serge Savard va être là. Je pense que Yvan Cournoyer va être là. Je sais pas si Guy va être là. J'ai une couple de gars, des Bretol de ce monde. J'ai hâte. Donc j'ai vraiment hâte à la fin de semaine.
Ben j'imagine. On fait juste y penser, puis on a hâte, nous aussi. Alors, au plaisir de se revoir le 18 novembre prochain à Toronto pour le grand jour. Guy, merci beaucoup pour ces belles minutes. C'est très, très apprécié.
Ça fait plaisir. Merci, Mario.